Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h à Fatoma, dans la région de Mopti, même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Monsieur Dam, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. Les dates des examens de fin d'année s'approchent. L'État a entamé des procédures de délocalisation des centres de sécurité. À Mopti, près de 300 candidats répartis entre 5 centres sont concernés par cette opération, selon l'Académie d'enseignement. Négocier avec les terroristes, c'est l'option proposée par les chefferies traditionnelles et les leaders religieux aux États membres du Liptako Gourmand. Ces recommandations ont été faites à Niamey ce mercredi en marge du forum régional sur la gestion des conflits. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé ce mardi 29 juin le mandat de l'AMUNISMA jusqu'en 2022. Cette mesure intervient au moment où la jeunesse de France une inexque bleue pour la sécurisation des populations dans la localité. À la présentation, Mariam Meiga, Nuhum Djiré assure la technique. Les dates des examens de fin d'année s'approchent à grands pas. Le processus de délocalisation des centres d'examen des zones d'insécurité se poursuit au nord, au centre et au sud du pays. Dans la région de Sikasso, 7 secondes entre Darandereso et Nongonswala sont concernés par cette délocalisation selon les autorités scolaires. À Gao, des dispositions sont en cours pour la répartition des centres concernés. Par contre, à Tumbutu, selon les autorités scolaires, aucun centre délocalisé n'a pour été à l'instant signalé. Les détails avec Imirana Kilomaiga.
Selon les autorités scolaires, la région de Sikasso, 5 secondes cycles de la commune de Dendereso ont été transférés à Sikasso. Par contre, deux autres de la commune de Nongoswala ont été délocalisés à Kléla. Ces élèves sont installés dans des familles d'accueil. Les responsables scolaires précisent que les conditions de vie sont acceptables avec un appui nutritif des autorités. Sinali Togola, directeur de l'Académie d'enseignement de Sikasso.
Depuis la mi-juin, ces centres sont fonctionnels. Ils travaillent du lundi jusqu'au samedi, plein temps. Et ils mettront également à profit les petits congés avant de travailler, jusqu'au 10 ou 13 ans de retard. Donc, les enfants sont dans les familles d'accueil. Il y a ce qu'on appelle un petit apport nutritif qu'on apporte comme aide à ces familles-là.
Pour des raisons d'insécurité, les autorités scolaires de la région de Gao ont préféré ne pas indiquer les zones de recasement des centres délocalisés. Toutefois, elles précisent que la délocalisation concerne certains centres de Gao, de Haoussa Foulan et de Boura dans le cercle d'Ansongo. Les autorités scolaires de la région annoncent aussi avoir demandé un appui nutritif à l'UNICEF pour ses élèves. Sadou Abdou, directeur de l'Académie d'enseignement de Gao.
Nous avons pris les taureaux par les pommes en les amenant dans les lieux plus sûrs, parce que pour des raisons de sécurité, on ne peut pas tout expliquer. Au niveau de Gao, on a des centres qui seront déplacés. Au niveau du camp de Haoussa Foulan, il y aura. Mais la pire des choses, c'est surtout dans la zone du Boura, dans la zone d'Asongo.
Contrairement à Sikasso et Gao, jusqu'à la date du 28 juin 2021, aucun centre délocalisé n'a été signalé à Tombouctou, précise le directeur de l'Académie d'enseignement de la région. Par contre, 4 CAP ont enregistré 361 élèves déplacés, dont 21 à Niafunke, 170 à Groumararous, 120 à Diré et 50 à Gundam, explique le premier responsable académique de la région de Tombouctou.
Toujours sur le même sujet, selon le responsable de l'Académie d'enseignement de Mopti, Daouda Doumbia explique que des dispositions ont été prises pour permettre aux élèves de composer dans de meilleures conditions. Mieux, des démarches sont en cours auprès des partenaires afin de soutenir ces candidats en termes de nourriture. On l'écoute au micro de Imirana Kilumaiga.
Ce centre se trouve au niveau des différents caps, notamment il y a un centre de cap de Sévaré, le centre de département dont les candidats vont composer à Sévaré. Donc du côté de Djéné, nous avons 3 centres à délocaliser, à savoir Gomitogo, Gagna, Kandara, qui vont composer à Djéné. Et du côté de Ténégou, nous avons le centre de Djéngouri, dont les candidats vont composer à Ténégou. Donc au total, nous avons 298 candidats, dont 119 filles qui sont concernées pour la délocalisation des centres d'examen du GL au niveau de l'Académie d'enseignement de Mopti. Donc, en plus de cela, tous ces centres également, on a organisé des cours de soutien à l'intention de ces mêmes candidats afin de les renforcer davantage pour leur participation pleine aux différentes épreuves de l'examen du GL.
Les programmes du studio Tamani sont disponibles à Mopti sur la radio Kounaria Sévaré et la radio Kaoural à Moptiville. Vous pouvez rejoindre la communauté studio Tamani en commentant et partageant nos informations sur la page Facebook ou encore sur Twitter. Le Conseil des ministres a adopté ce mercredi un projet de loi portant sur la grille salariale des militaires, des fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des statuts autonomes. Selon le gouvernement, ce projet de loi vise à apaiser le climat social et rétablir l'équité entre les agents de l'État. Cette mesure intervient quelques jours après la menace de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Sur un tout autre sujet, le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé ce mardi 29 juin le mandat de la MINUSMA jusqu'en 2022. Ce nouveau cap se fait sans augmentation d'effectifs et sans modification de mandat. Le Conseil de sécurité a également exigé la tenue de l'élection présidentielle en février 2022 et de lancer l'ensemble des 16 projets du Fonds pour le développement durable approuvés par le comité directeur. Si pour la société civile, ces renouvellements est une lueur d'espoir. Des observateurs estiment que la mission doit renforcer sa collaboration avec les autorités pour atteindre les objectifs. Le point avec Juliette Koulibaly.
Au nord du pays, la société civile de Gao se réjouit du renouvellement du mandat de la MINUSMA. Pour elle, malgré quelques difficultés, la mission onusienne a fait ses preuves dans la sécurisation et le développement de la localité. Toutefois, Alassane Djitey invite la MINUSMA à changer de stratégie pour mieux mener ses opérations de stabilisation.
Il faudra le reconnaître de 2013 à nos jours que la MINUSMA est à Gao. Ils ont quand même joué un rôle prépondérant. Pour nous, le fait que le mandat a été renouvelé, vraiment c'est une lueur d'espoir. Mais pour nous aujourd'hui, la satisfaction est partielle. Il faudrait que la MINUSMA change de stratégie. Il faut l'intervention. Il faut aussi impliquer la jeunesse dans la mise en œuvre de leur mandat. Chose qu'ils ont fait, mais il faut également le renforcer.
Quant aux observateurs, certains estiment que la présence de la MINUSMA ne s'est jamais soldé par des résultats satisfaisants. Pour Boubacar Salif Traoré, les autorités doivent de plus en plus investir dans la montée en puissance de l'armée malienne et la mise en œuvre du DDR. Il est le directeur du cabinet Afrique Global, conseil spécialisé sur les questions de défense et de développement dans l'espace G5 Sahel.
À chaque renouvellement, il y a des objectifs qui sont fixés. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ce sont des objectifs qui n'ont pas été atteints, en tout cas dans la plupart des cas. Ce nouveau renouvellement de ce mandat-là nous oblige à garder un certain espoir en espérant déjà qu'il puisse avoir des élections, qu'on puisse stabiliser la situation politique et continuer la montée en puissance de l'armée malienne. Il ne faut pas aussi oublier dans ce processus-là la poursuite de la mise en œuvre du programme DDR.
Ce renouvellement intervient au moment où certaines populations dans le centre du pays manifestent pour le départ des casques bleus.
Direction Niamey au Niger où se déroule un forum régional sur la gestion des conflits. Les chefferies traditionnelles et les leaders religieux appellent à des négociations entre les gouvernements des États membres du Liptako Gourmand et les chefs influents des groupes armés terroristes. Selon ces notabilités religieuses et coutumières, les exemples de négociations de compromis locaux ont apporté des succès qui doivent être vulgarisés au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Ces recommandations ont été faites ce mercredi en marge du forum régional sur la gestion des conflits locaux et communautaires dans la zone frontalière du Liptako Gourma. À Niamey, nous retrouvons notre envoyé spécial, Intala Agbilal.
Pour les chefferies traditionnelles, les solutions à la crise multidimensionnelle de l'Iptako Gourma ne résident nulle part que dans le dialogue. Pour Ousmane Amirou Diko, émir de l'Iptako, ces négociations sont nécessaires face à la montée en puissance des attaques terroristes et des violences intercommunautaires de plus en plus meurtrières.
La solution possible, c'est le dialogue. Il y a moyen de dialoguer parce que dans le passé, les gens dialoguaient. Nous avons beaucoup de mécanismes chez nous qui nous permettent de dialoguer sans problème et puis de trouver des solutions.
Cette approche des notabilités coutumières a été fortement soutenue par les guides religieux et certains membres des hauts conseils islamiques de la région. Selon eux, les États doivent s'appuyer sur les notabilités traditionnelles et les guides religieux de l'Iptako pour s'inscrire dans le cadre d'un plan global de dialogue.
Les autorités sont condamnées, n'ont pas d'autre choix que d'associer les deux leaders, coutumiers et religieux. Il faut parfaire votre coexistence pacifique. Chaque prière, un leader religieux, un imam est tenu, sans même être bousculé par quelqu'un, de faire cette sensibilisation auprès de la population.
Toutefois, les représentants des gouvernements du Mali, du Niger et du Burkina Faso n'ont pas caché leur réticence presque générale à ce dialogue avec le groupe terroriste qui écume le Liptako Gourma. De Niamey, Intala Akbilal pour Studio Tamani.
Parlons à présent de cet autre colloque sous-régional, la juridiciarisation de la lutte contre le terrorisme. J'y arrive. Défis ONG, c'est le thème d'un colloque régional tenu hier à Bamako. Plusieurs experts judiciaires, eux chercheurs venus du Sénégal, de la Mauritanie, du Niger et du Burkina Faso ont pris part à cette rencontre. L'objectif est de débattre et faire des réflexions sur le sujet afin de trouver des solutions pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Selon Dr Bakary Sam, directeur de l'Institut Timbuktu, le respect des droits humains est très important dans la lutte contre le terrorisme. Il est au micro de Keita.
Ce colloque vise à édifier les praticiens du droit, mais aussi les acteurs sécuritaires sur la nécessité, dans cette lutte contre le terrorisme, de combiner entre l'approche militaire et l'approche préventive. Et dans cette approche préventive-là, l'état de droit doit jouer sa partition et son rôle, en mettant l'accent sur le rôle de tous les acteurs dans une démarche inclusive, dans une démarche aussi holistique, pour que la question du terrorisme ne soit pas seulement traitée sous l'angle du militaire et du sécuritaire, mais aussi qu'on prenne en compte la question de la prévention, qui à mon avis est très très importante aujourd'hui. Vous savez, nos états sont confrontés à ce paradoxe dans lequel ils sont obligés de gérer ce qu'on appelle les impératifs de sécurité, mais aussi de respecter les droits humains. Le respect des droits humains n'est pas antinomique au fait d'assurer la sécurité. Le respect des droits humains crédibilise l'état de droit, crédibilise son autorité. Et dans ce sens-là, pour nous, c'était très très important que l'on se réunisse ici aujourd'hui pour réfléchir là-dessus.
Situation de l'évolution de la maladie à coronavirus. Les autorités ont enregistré hier mercredi 4 nouveaux cas de COVID-19, 0 patients guéris et 0 décès. Ainsi, la situation cumulée se présente comme suite: 14 426 cas positifs, 525 décès et 10 059 guéris. Place à présent à la rubrique Actu COVID, portée sur les questions des auditeurs adressées aux spécialistes. Elle est présentée par Khalifa Goïta.
Studio Tamani. Bonjour et soyez les bienvenus à votre rubrique consacrée à l'actualité du coronavirus Actu COVID. Comme tous les mercredis et jeudis, nous donnons la parole aux auditeurs qui expriment leurs préoccupations liées à la COVID. Des spécialistes de la santé répondent à ces questions.
Allô docteur, à propos du port des masques, est-ce que c'est vrai que nous réabsorbons les dioxydes de carbone que nous dégazons?
Il y a des normes de l'OMS, même la qualité même du masque là a été fabriquée selon ces normes. C'est-à-dire que quand vous prenez le masque, vous inspirez et vous expirez, c'est comme si ça vous tirait, il vous suit. Quand vous revenez, il gonfle encore. Donc ça veut dire qu'il filtre les matières virales. Donc le virus, il traverse, mais l'oxygène, il est plus léger encore. Il n'y a pas de souci pour ce problème d'oxygène.
Bonjour docteur, est-ce possible d'attraper le coronavirus dans les ateliers de couture?
S'il n'y a pas d'aération, l'atmosphère est confinée, les gens sont agglutinés les uns sur les autres. Ils n'utilisent pas de masque, ils n'utilisent rien. S'il y a un porteur asymptomatique, il y a des risques de transmission.
Allô docteur, est-ce qu'une femme enceinte peut faire les vaccins?
La femme enceinte qui porte une grossesse au deuxième et au troisième trimestre, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, les femmes enceintes vaccinées, on s'est rendu compte que le vaccin protégeait en plus les enfants naissaient avec des anticorps protecteurs. Mais si par inadvertance, il arrive qu'une femme a été vaccinée au premier trimestre, il faut faire un suivi. Mais ce qui est surtout recommandé, c'est les femmes avec une grossesse au deuxième et troisième trimestre.
Le groupe sanguin a-t-il une influence sur les chances de contracter la COVID-19?
Pour aujourd'hui, l'unanimité n'est pas faite autour de la question pour dire que exactement le groupe sanguin influence le fait d'avoir le coronavirus. Les études qui ont été menées, c'est des études qui doivent être prolongées pour avoir une taille d'échantillon suffisante pour pouvoir donner des vrais résultats.
C'est la fin de ce numéro du jour. Merci de l'avoir écouté. Rappelons que le respect des mesures barrières est essentielle pour vous mettre à l'abri du coronavirus.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Le tour d'horizon de l'actualité régionale nous amène d'abord à Koulikoro où une rencontre des acteurs régionaux sur le mécanisme de gestion des plaintes dans les domaines de la santé a débuté mardi dernier. Une cinquantaine d'agents des 10 districts sanitaires de la région de Koulikoro participent à cette rencontre. L'objectif est de les informer et les sensibiliser sur la question. L'activité est organisée par la Direction régionale de la santé de Koulikoro avec l'appui financier du projet Accélérer le progrès vers la couverture sanitaire universelle. Selon les négociateurs, la rencontre sera sanctionnée par la mise en place des comités de gestion des plaintes dans les zones couvertes par le dit projet. Elle va durer 6 jours. Cap sur Sikasso où les membres du conseil régional sont depuis mardi dernier en session pour le budget additionnel. Selon les organisateurs, le budget 2021 qui était d'environ 18,800 milliards de nos francs passe désormais à environ 20 milliards, soit un fonds additionnel de l'ordre de 2 milliards de francs CFA. La session va durer 5 jours. Restons dans la région de Sikasso où plus de 150 filles de parents nécessité des classes de première année ont reçu le week-end dernier chacune une enveloppe de 25 000 francs CFA à Yoroso. Selon le directeur du centre d'animation pédagogique de Yoroso, ce tapis vise à soutenir les parents et encourager la scolarisation des filles. Il entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à l'insertion scolaire financé par l'UNICEF. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Maria Maïga. Nous dirait assurer la technique. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site internet au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Ne décrochez pas car l'info continue. Le 3e bataillon de l'armée reconstituée est arrivé ce lundi 28 juin à Kidal. Pour des observateurs, c'est une avancée notoire dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Ils estiment que cette action permet de rétablir la confiance entre les parties signataires du document. Comment cette armée va-t-elle évoluer? Pourra-t-elle relever les défis du terrain? Boubacar Bokoum, politologue chercheur, répond aux questions de Hamsetou Touré.
Intégrante de l'application de l'accord, cette armée reconstituée doit être comprise comme étant une armée républicaine et nationale.
Quelle est la différence entre cette armée reconstituée et notre armée nationale?
Non, il n'y a aucune différence. Il s'agit de la même armée nationale. Maintenant, le mode de recrutement change légèrement à cause de la configuration du conflit. Il s'agit de dire qu'en réintégrant les mouvements armés dans l'armée, forcément, il faut respecter un certain nombre de critères. Maintenant, ces critères ont été définis, il y a eu des accords là-dessus. Quel que soit le quota qu'on prend dans les mouvements, ce ne sont pas des gens qui sont extra-maliens, c'est des maliens. Et ils servent l'armée nationale, ils servent l'État malien. Maintenant, dans la méthode d'intégrer l'armée nationale, il y a des zones qui posent problème, qui sont notamment les zones du Nord. Dans le déploiement, on a mis en place un mécanisme qui permet d'avoir un certain quota, un certain équilibre pour permettre de rétablir la confiance entre les composants de l'armée.
Au regard du retard accusé dans la mise en œuvre de l'accord, est-ce que l'arrivée de cette armée reconstituée peut faire en sorte d'accélérer l'accord?
Oui, je pense que la difficulté de l'application de l'accord dépend en grande partie du manque de confiance et de la méfiance des uns et des autres. Cette armée reconstituée, une fois qu'elle va se mettre au travail et que cela peut rassurer non seulement les composantes internes, parce que les composantes viennent de différentes origines, ils ne se connaissent pas bien, ils n'ont pas le même mode de fonctionnement, peut-être qu'il y aura quelques difficultés fonctionnelles. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une avancée notable, ça permet de rétablir la confiance. Une fois que la confiance est rétablie, je pense que l'application de l'accord ne souffrirait pas de grand-chose. La difficulté aujourd'hui de l'accord, c'est que les partenaires ne se comprennent pas, du moins les acteurs ne se comprennent pas sur l'interprétation du contenu de l'accord. Souvent, il y a des décisions qui sont prises, qui prennent du retard dans leur application, qui fait que effectivement, à un moment donné, ça apporte le doute. On pense souvent que l'État est de mauvaise foi ou souvent l'État pense que les mouvements sont de mauvaise foi. Donc je pense que en rapprochant les points de vue, en évitant d'avoir trop d'intermédiaires dans l'application de l'accord, en se parlant directement et en partant vers les mécanismes prévus par l'accord, je pense que ça nous permettrait d'avancer.
Est-ce que cette armée reconstituée pourrait s'appliquer dans les autres parties du pays?
Et l'accord dit à son article 4 que ce qui est bon dans les régions du Nord l'est aussi dans les autres régions, donc ça ne pose aucun problème. Maintenant, la difficulté d'application de le dupliquer à d'autres niveaux peut être difficile à mettre en œuvre pour des raisons techniques, pour des raisons de commodité ou des raisons financières. Et la difficulté que l'État a aujourd'hui à s'affirmer en tant qu'État fort.